Bonjour. Vous allez bien? Oui. Je suis heureux de pouvoir enlever le masque, hein, c'est un privilège. Ce matin, j'avais à cœur de vous parler du cœur du Père. Ce dimanche et dimanche prochain, je serai à la prédication. Et du coup, j'avais à cœur de pouvoir vous partager des textes qui m'ont touché, qui m'ont parlé et qui me parlent toujours. Et ce matin, on va prendre ça sera dans Luc 15, les versets 11 à 32, et ça sera la parabole du fils prodigue. Mais avant de commencer le texte, avant de commencer d'étudier ce texte, moi, ce qui m'a touché dans cette prédication, dans ce texte, c'est cette figure du Père. C'est de voir l'attitude du Père dans ce texte. Parce que, alors, moi, peut-être que vous le savez, vous ne savez pas, lorsque j'ai 15 mois, mon papa décède, donc j'ai grandi sans père. Ma maman a pu se débrouiller comme elle a pu. Elle a essayé de refaire sa vie, de retrouver quelqu'un d'autre. Et puis toutes les images paternelles qui sont arrivées, tous ces hommes, bah, ils étaient intéressés par ma mère, mais pas forcément par moi. Donc c'était un peu difficile parce que du coup, j'ai pas vraiment pu trouver un père ou une. Donc les années passent et du coup, je suis en première année de théologie. Je sers dans une église à Bulle. Et à la fin de cette première année, vers la fin de cette première année, je commence à avoir des crises d'angoisse. Et j'arrive pas à vraiment savoir pourquoi. Donc les crises d'angoisse, elles se manifestaient. J'avais comme l'impression d'avoir un poids sur le thorax qui pèse. Et puis bah, du coup, juste marcher, c'est compliqué. Manger, c'est compliqué. Tout devient très vite très compliqué. Et du coup, on m'a expliqué que c'est une crise d'angoisse. On m'a expliqué que c'est à cause du travail, je fais trop, il faudrait que je me calme. Et du coup, bah, il y a la fin de l'année, ça se passe, l'été arrive, je recommence l'année suivante, ma deuxième, et les crises d'angoisse reviennent. Et là, j'essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe, et c'est avec le pasteur de l'époque, mon référent, on discute. Et en fait, on arrive un peu à la réflexion, ou j'arrive à cette réflexion que j'ai projeté sur Dieu les images que j'avais eues des pères ou des personnes masculines. C'est-à-dire que j'avais projeté sur Dieu inconsciemment une image qui me mettait dans un état d'angoisse. J'avais projeté sur Dieu, en fait, cette idée que un jour, Dieu le Père, comme ces autres hommes dans ma vie, j'allais me lever, puis un jour, Dieu va venir, écoute Francesco, bah, aujourd'hui, moi, je pars. Je te laisse tout seul. Je t'abandonne. Et ça me mettait dans une angoisse profonde parce que j'étais pleinement conscient que si Dieu n'est plus là, je peux plus rien faire. Formation de pasteur, travailler dans l'église, besoin d'une formation en théologie, si Dieu n'est plus là, ça devient vite, très vite, très vite compliqué. Et du coup, j'ai compris qu'il y avait ce mensonge qui était ancré là dans ma vie, qui s'accrochait de manière inconsciente, j'avais projeté sur Dieu une image de mon expérience avec les autres pères. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ma Bible, j'ai ouvert la Bible et j'ai regardé ce que Dieu dit de Dieu, ce que lui-même dit de lui. Et dans la Bible, j'ai trouvé un verset qui m'avait accompagné et que j'ai redécouvert, que j'ai même finalement tatoué sur mon bras. Matthieu 28, 20, la deuxième partie du verset. C'est Jésus qui parle et il dit « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et moi, cette parole, ça a été une vérité biblique, une vérité que Dieu me dit à moi. Et je l'ai prise et j'ai décidé que cette vérité, ça serait ma nouvelle croyance. Et j'ai commencé à la proclamer, j'ai commencé à la dire à haute voix, le matin quand je me levais, « Voilà, Père, tu es avec moi. » Je l'appelais papa même, je disais « Papa, tu es avec moi ce matin. » À midi, tu es avec moi. Le soir, tu es avec moi. Quand je vais faire mon sport, tu es avec moi. Quand je me douche, tu es avec moi. Quand je fais le ménage, tu fais le ménage avec moi. Tu es là avec moi tout le temps et tu ne m'abandonneras jamais. Et ce qui s'est passé, c'est que plus le temps passait et en fait, plus les crises d'angoisse ont cessé. Et en fait, pour moi, ces crises d'angoisse étaient liées à ce mensonge, à cette pression que je me mettais en me disant, mais si je fais pas assez, Dieu le Père, Dieu va partir. Et dès le moment où j'ai pu mettre cette vérité dans mon cœur, croire à cette vérité biblique, bah, les crises d'angoisse ont cessé. Je vous dis tout ça parce que on va s'attarder sur le cœur du Père, sur ce que Dieu le Père, comment Dieu le Père fonctionne vis-à-vis de nous, comment il va interagir avec ses fils. Et du coup, c'est pour ça que je voulais commencer avec cet exemple-là. Donc, on va penser dans Luc 15. On va prendre déjà juste les versets 1 et 2 qui vont poser le contexte du verset. Donc, je vous les lis. Versets 1 et 2. « Les collecteurs d'impôts et autres pécheurs notoires se pressaient tout autour de Jésus, avides d'écouter ses paroles. Les pharisiens et les spécialistes de la loi s'en indignaient et disaient « Cet individu fréquente des pécheurs notoires » et s'attable avec eux. » Il faut bien que ces deux versets vont poser tout le cadre et tout le contexte de Luc 15. Jésus est là pour les malades, pour les pécheurs, il va chercher les personnes qui sont loin de lui, Jésus vient apporter sa bonne nouvelle. Et en faisant ça, les pharisiens, les spécialistes de la loi, ceux qui défendent la parole de Dieu, voyez comment Jésus fonctionne. Et à l'époque, le fait qu'on s'attable avec quelqu'un, qu'on mange avec quelqu'un, c'est signe qu'on accepte la personne en face. C'est qu'on fait communion avec. Manger avec quelqu'un, ça veut dire qu'on n'a aucun problème avec la personne. On accepte la personne telle qu'elle est. C'est pour ça que dans le Moyen-Orient, souvent, on ne peut pas manger et se disputer en même temps. Il faudra régler la dispute et puis après, on peut manger. À table, c'est important. Et du coup, Jésus, à cause de la réaction des pharisiens, va commencer à parler et à expliquer trois paraboles. Et c'est tout Luc 15. Donc il faut bien qu'on retienne ça, c'est en réaction ou après l'intervention des pharisiens qui sont outrés, indignés qu'un enseignant, que Jésus, soit avec des pécheurs notoires et des collecteurs d'impôts. Et du coup, il va développer trois paraboles. La parabole de la brebis perdue, donc il y a une brebis qui s'égare, il laisse les 99 autres, donc le berger laisse les 99 autres pour chercher la brebis perdue. Pareil avec une parabole qui parle d'une pièce perdue, donc c'est une dame qui va s'activer pour retrouver sa pièce. Et on arrive sur la parabole du fils prodigue, où on va avoir plus en détail ces versets, où cette parabole se passe en trois actes. Et il va beaucoup plus se développer, on le voit dans vos versets, c'est beaucoup plus conséquent la parabole du fils prodigue. Et on va voir, donc du coup, c'est l'histoire d'un père qui a deux fils, et il y a le plus jeune des fils, c'est comme ça que l'histoire commence, qui décide de s'en aller. Donc c'est le départ du fils cadet. Donc je vous lis les versets. Donc le verset 11, puis il poursuivit. Donc c'est à la suite, c'est Jésus, il poursuit après ces deux premières paraboles. Un homme avait deux fils. Le plus jeune lui dit, « Mon père, donne-moi ma part d'héritage. » Et celle qui me revient un jour, celle qui doit me revenir un jour. Et le père fit le partage de ses biens entre ses fils. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune en menant grande vie. Quand il eut tout dépensé, une famine survint dans ce pays-là et il commença à manquer du nécessaire. Alors il alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoya dans les champs garder les porcs. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les carbous que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Alors il se mit à réfléchir sur lui-même et se dit « Tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent alors que moi je suis ici à mourir de faim. » Je vais mettre en route, j'irai trouver mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. » Ça, c'est le premier acte. La parabole commence comme ça. On voit un fils, un cadet, donc du coup, il y a un grand frère, qui demande sa part d'héritage. Donc, faut être conscient qu'à l'époque, demander sa part d'héritage, ça veut dire que l'argent du père l'intéresse, mais pas le père. Demander la part d'héritage, ça veut dire qu'on considère que le père est mort. C'est-à-dire qu'on va considérer que c'est à la mort du père qu'on reçoit l'héritage. Et du coup, de demander un héritage alors que le père est vivant, ça veut dire autrement, dit, je veux ton argent, mais je ne veux pas de toi. C'est ça que le fils cadet est en train de dire. J'ai besoin de cet argent va me servir, va m'épanouir, va m'amener à avoir une bonne vie, mais pas la relation avec toi. Alors donne-moi ma part. » Donc déjà là, c'est une demande qui est complètement folle pour l'époque, et la réponse du père est encore plus folle. Parce qu'à cette époque-là, un fils qui demande ça à son père lui dit « non », et il le met dehors. Et il est déshérité, c'est terminé. Et bien au contraire, le père, qu'est-ce qu'il fait? Le père va changer tout son mode de vie, il va séparer ses biens, il va tout donner, et en fait il va tout donner à son fils. Enfin, tout donner. Il va donner un tiers de sa fortune, puisque du coup c'est le plus jeune, il recevait un tiers, et le grand, l'aîné, recevait les deux tiers. Donc il divise sa fortune, il donne un tiers à son fils, du coup il va perdre pas mal de fortune, son fils va tout dépenser, il va partir loin de là. Donc le texte dit ce qui se passe, et là ce que je trouve intéressant c'est que le fils, à un moment donné, verset 17, réfléchit à cette situation, réfléchit à ce qu'il fait, et quelque part il admet qu'il a eu tort. Il admet que quelque part il n'a pas fait tous les bons choix, que la vie n'est pas un sketch et c'est pas que des bisounours, que des fois il y a des problèmes, et que du coup, il a envie de retourner chez son père. Mais en fait, le verset 18 et 19, c'est le plan du fils aîné. Il se dit, je ne peux pas retourner chez mon père et lui dire, je te demande pardon, reprends-moi, et on fait comme si rien ne s'était passé. Ça ne va pas suffire. Ça ne va pas suffire pour l'époque. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, je vais aller vers mon père, je vais être engagé comme ouvrier, comme ça je vais pouvoir rembourser mon héritage. Comme ça, en fait, je vais pouvoir travailler, rembourser, et puis après, je pourrai être accepté de nouveau comme son fils. Ça, c'est le plan de son enfant. Il dit, ok, je vais aller dans ce sens-là. Et du coup, on arrive à l'acte 2, le retour du fils cadet. Je vous lis, c'est les versets 20 à 24. Il se mit donc en route, donc c'est le fils cadet, pour se rendre chez son père. Comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié pour lui. Il courut à la rencontre de son fils et se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouvez, et mettez-lui. Passez-lui une bague au doigt et chaussez-le de sandales. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir. Car voici mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer dans la joie. C'est un bel acte. Hein. On voit la joie, on voit un père qui est heureux de voir son fils. Et j'aimerais quand même qu'on s'arrête que sur le verset 20, le fils est au loin et son père l'aperçoit. Ce que je trouve intéressant dans l'attitude du père, c'est que le père était en train d'attendre. Le père attendait le retour finalement de son fils cadet, quelque part. Il n'était pas affairé à faire autre chose. Il n'était pas en train de faire quelque chose et le fils cadet, quand il arrive, il dérange le père qui est dans ses affaires. C'est marqué que le père était déjà en train de regarder au loin. Est-ce qu'il espérait fondamentalement le retour de son fils? Je pense que oui. Je pense que oui, il espérait fondamentalement le retour de son fils. Et ce verset, et cette phrase qui dit, donc le père, il courut à la rencontre de son fils et se jeta à son cou et l'embrassa longuement. On est très loin de comprendre toute la profondeur de ce qui se passe dans cette seule phrase. On est au Moyen-Orient antique. C'est le père de famille. C'est le pilier, c'est celui qui représente l'autorité. Je veux dire, j'ai pas eu de père, hein, mais je suis mauricien, j'ai eu des oncles. Je n'ai jamais vu un oncle courir à l'île Maurice. Jamais, jamais on verra un père de famille courir. Non, s'il court, c'est qu'on a des problèmes, c'est que je vais avoir des problèmes. S'il me court après, je vais avoir de gros, des sérieux problèmes. Mais sinon, un père ne court pas. C'est une honte. Pourquoi ça va être une honte? Parce qu'il a une tunique, donc une belle robe, un bel habit, et puis pour courir en robe, hein. Nous, les hommes, on ne sait pas trop, mais du coup, il faut lever la robe pour pouvoir courir. Et le problème à l'époque, montrer ses chevilles, c'est une honte. On ne montre pas cette partie du corps. Ça doit être couvert. Et quand il court pour aller chercher son fils, Aujourd'hui, on a pas mal de maisons, elles sont toutes individuelles, mitoyennes peut-être, mais on n'a pas cette logique de vivre en clan et en communauté, en village. Quand le fils arrive, il arrive premièrement dans le village pour rejoindre sa maison. Tout le village le voit. Tout le monde est au courant de ce qui est en train de se passer. Ce n'est pas quelque chose qui se passe secrètement comme ça. C'est public, ce retour est public, et il y a une honte qui s'installe sur son fils. Il y a une culpabilité que son fils est en train de vivre. Il est en train de vivre quelque chose d'affreux. J'imagine même que j'ai lu des commentaires qui disaient que même sur certaines familles, le fils aurait juste pu être lapidé pour le fait d'oser revenir. Il y a une telle honte qui s'abat sur sa famille. Mais le fait que le père est en train de courir, qu'il a levé sa robe et qu'il court sauter dans les bras de son fils et l'embrasser, plus personne ne s'intéresse au fils. Plus personne ne s'inquiète du sort du fils. Tous les yeux sont rivés sur le père. Le père prend la honte, le père prend la culpabilité, le père prend tout ce que le fils aurait dû avoir lors de son retour, il le prend sur lui. Et il le restitue pleinement dans sa position. Il lui donne un habit, le meilleur habit, c'est-à-dire que c'était sûrement une de ses tuniques à lui, le meilleur habit. Donc il est restauré avec l'habit. Il a une bague, donc considéré de nouveau comme fils et donc héritier de nouveau. Et du coup, il l'a accepté de nouveau comme fils et du coup, c'est comme une adoption. Et à l'époque, l'adoption est plus forte que d'avoir un fils naturel. On peut avoir un fils naturellement et puis bah, c'est pas de bol, ça fonctionne pas, on l'aime pas, ou il est un peu limité, on l'a pas choisi, il est là. Mais d'adopter quelqu'un, c'est un choix. Et du coup, une adoption, c'est bien plus fort, bien plus conséquent que juste d'avoir un fils. Et du coup, le fait qu'il l'adopte, ça veut dire c'est mon fils, je le proclame, je le prends, je décide que c'est lui, et rien ne va l'enlever de ce statut. Et puis du coup, le dernier point, le veau engraissé. À l'époque, on ne mange pas de la viande de manière régulière. Donc le veau engraissé, ça fait des années qu'on l'engraisse, ça fait des années qu'on le prépare, ça fait du temps qu'on le prépare. Et là, le tuer pour un fils cadet qui a dilapidé, c'est ce que veut dire prodigue, qui a dilapidé un tiers de la fortune pour des fêtes, des prostituées, pour faire ce qu'il veut, c'est que le père est plus qu'heureux de voir son fils. Mais la parabole ne s'arrête pas là. Elle continue, et c'est là que je trouve intéressant, c'est que souvent, on s'arrête juste à ce que le père fait avec le fils cadet, et on oublie le fils aîné. On oublie ce qui se passe. Mais il y a un fils aîné qui est là, et qui rentre dans l'acte 3. L'indignation du fils aîné. Les versets 25 à 32. « Pendant ce temps, le fils aîné travaillait au champ. Sur le chemin du retour, quand il arriva près de la maison, il entendit de la musique et des danses. » Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le garçon lui répondit, « C'est ton frère qui est de retour. Ton père a tué le veau gras en son honneur parce qu'il l'a retrouvé sain et sauf. » Alors le fils aîné se mit en colère et refusa de franchir le seuil de la maison. Son père sortit et l'invita à entrer. Mais lui répondit, « Cela fait tant d'années et tant d'années, ça fait cela. » Tant et tant d'années que je suis à ton service, jamais je n'ai désobéi à tes ordres, et pas une seule fois tu m'as donné un chevreau pour que je festoie avec mes amis. Mais quand celui-là revient, ton fils, qui a mangé ta fortune avec des prostituées, pour lui tu tues le veau gras ? Mon enfant, lui dit le père, tu es constamment avec moi, et tous mes biens sont à toi. Mais il fallait bien faire une fête et nous réjouir, puisque ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, puisqu'il était perdu et voici qu'il est retrouvé. Le fils aîné est en colère. Et on peut le comprendre. C'est-à-dire qu'il avait les deux tiers de son héritage, il a tout fait, le fils cadet revient, du coup les deux tiers, il va de nouveau avoir que deux tiers pour lui. Son petit frère va récupérer un tiers de sa fortune. Et puis zut, quoi. Je veux dire, lui, il a fait n'importe quoi. Et puis le fils aîné, il a tout fait juste. Enfin, c'est son point de vue, en tout cas. Et on voit qu'il aura une attitude Et là, je trouve encore fou, où il ne voudra pas rentrer dans la maison, et c'est le coup, c'est son père qui doit sortir et l'inviter à entrer. Là, de nouveau, c'est un détail, mais qui est crucial. Le père de famille fait une fête. Il invite la famille, oui, mais tout le village, pour qu'on fête ensemble le retour de son fils. Ça ne se fait pas que l'hôte quitte la fête. L'hôte ne doit pas quitter la fête, l'hôte doit rester avec ses invités, l'hôte doit être là en relation avec ses invités. Le fait qu'il quitte ses invités pour aller voir son fils, c'est de nouveau la preuve que le père cherche à rentrer en relation avec son fils aîné. Alors que son fils aîné, lui, est en colère, le père va prendre, de nouveau, va se mettre en situation où il va être humilié, où les gens vont mal parler de lui, pour rentrer en relation avec son fils. Et du coup, le fils aîné, on va voir que le fils aîné obéit aux lois de son père, fait tout juste, mais que le fils aîné n'est pas en relation avec le père. Parce que finalement, c'est rien n'est noté qu'ils sont en relation, qu'ils font des choses ensemble. Il le dit juste, je fais tout ce qu'il faut, je suis à ton service, je suis un bon modèle, un bel ouvrier, un bon fils, j'ai fait tout juste. Et finalement, j'ai le droit à rien. Et on voit que le fils aîné, en fait, il est en train d'obéir, mais dans l'espoir d'avoir un bénéfice. Il ne travaille pas par amour pour son père, il travaille par amour pour lui-même. Il veut le meilleur pour lui, donc il donne tout ce qu'il a, mais finalement, c'est pour lui. Il est en service, il est en train d'obéir, et finalement, il est tout autant perdu que son frère cadet. Donc la parabole s'appelle le fils prodigue ou le fils aîné. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, finalement, les deux fils sont perdus. Le fils cadet coupe la relation et s'en va, et c'est une manière d'avoir cette coupure avec son père. C'est qu'il est parti au loin, c'était son argent qui l'intéressait. Et le fils aîné, finalement, il est resté auprès de son père pour son profit, pour l'argent du père. Mais pas forcément pour être en relation avec le père. Et finalement, Jésus nous explique ça et il s'arrête à ce moment-là de l'histoire. Il n'y a pas de dénouement. Parce que vous voyez, l'histoire s'arrête, on est en dehors de la fête, le fils aîné est là, et il dit « rentre ». Fin de l'histoire. Qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe, c'est que Jésus raconte ça, je vous rappelle le début, à cause des pharisiens. À cause des pharisiens qui sont venus reprendre Jésus en disant « Tu es avec des pécheurs et il ne faut pas être avec les pécheurs. » Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va donner deux paraboles où en fait, quelqu'un est perdu, quelque chose est perdu, une brebis, une pièce, quelqu'un s'active et va aller la retrouver. Et on voit ici deux fils perdus et finalement, personne ne va chercher qui que ce soit. Le fils aîné aurait pu aller chercher son frère cadet pour aller le ramener à la maison. Mais en fait, rien de tout ça se passe. Et en fait, Jésus est en train de juste montrer que autant le fils cadet que le fils aîné, c'est deux voies pour pouvoir réussir à s'épanouir et à chercher à être juste devant Dieu. Enfin, finalement, pas juste devant Dieu, puisque le fils cadet coupe toute relation et rejette complètement Dieu. C'est une façon de s'opposer à Dieu. Et l'autre décide de dire « je vais mériter ma relation avec lui ». Parce que finalement, j'ai réussi à tout faire juste, j'ai quand même le droit. J'ai quand même le droit de vivre ce que je vis. Ou quand ça ne va pas aller, j'ai quand même le droit. Et Jésus, en nous montrant ça et en prenant ce père, en fait, qui cherche la relation avant tout, nous montre une vérité, et je l'ai résumé en une phrase, c'est qu'une relation authentique avec Dieu est fondée seulement sur sa grâce. Le Père fait grâce. On reçoit, par le sacrifice de Jésus, une grâce de retrouver, c'est un cadeau, un don immérité, et on ne peut rien y faire. Les amis, on ne peut rien faire de plus pour être parfait aux yeux de Dieu que maintenant. C'est bon, il n'y a pas un acte que vous pouvez faire en plus pour être un peu plus parfait aux yeux de Dieu. On ne peut pas mériter cette relation. Et c'est une grâce. Et c'est seulement quand on comprend que c'est par grâce que je peux être en relation avec lui, que je peux vivre une relation authentique. Que je ne vais pas de nouveau me retrouver dans une position du fils aîné ou finalement à un moment donné partir comme le fils cadet. mais je vais pouvoir rentrer dans cette relation avec Dieu le Père. Une relation authentique avec Dieu est fondée seulement sur sa grâce. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin, vous donner ce tableau du cœur du Père. Et pour conclure, je ne connais pas vos histoires de vie, ce que vous avez eu comme relation avec votre Père, peut-être un Père qui était là, proche, pas proche, peut-être comme moi qui a été complètement absent à cause de circonstances de vie. Mais je vais vous donner, j'aimerais nous donner l'occasion ce matin d'entendre par une lecture que Anne-Sophie et Pierre-Étienne vont pouvoir faire, la voix du Père qui nous parle, la voix du Père qui vient nous dire des choses sur notre vie et sur nous. Et c'est comme ça que j'aimerais conclure ce temps de prédication en laissant place à Anne-Sophie et à Pierre-Étienne.